Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
On vous rappelle que l'intrépide Marceau est en vacances. Voilà pourquoi les deux grosses têtes d'affiche ici à Boulevard 102 ne s'affrontent pas dans le Pit Stop. Je dis s'affronter parce que c'est quand même deux gars qui ont une vision de la vie semblable et en même temps très opposée sur certains points.
On ne s'est pas stunés beaucoup.
Je trouve pas.
Depuis le début du Pit Stop.
Je m'attendais à plus de chicanes.
Oh, mais on s'aime bien. Fait qu'on jase.
Je comprends.
C'est ça qu'il faut faire quand
c'est-tu
on s'aime.
C'est pas grave. Parce qu'au pire, vous aurez eu des débats. Ça, vous en avez eu.
Oui, mais... oui, mais c'est, ça, jamais, ça s'est jamais terminé avec, mettons, quelqu'un qui part en claquant la porte. Là.
Pas encore.
Non, c'est parce qu'on s'est pas stiné ses sabres encore.
c'est hey, pathétique, ça.
C'est incroyable.
Que les sabres donnent 48 heures de même d'assinage radiophonique.
Il n'y a pas un argument qui mérite d'être gagné au point de faire des chicanes puis de quitter une émission de radio. Mais non. Les sabres, là, c'est un... les sabres... ne s'impliquent pas suffisamment dans un match pour que ça leur tienne à cœur ce sujet-là, mm-hmm. Puis c'est eux autres. Ben, imagine-toi des gars de sport de Montréal.
Je ne savais pas que c'était une vraie chicane. Ça avait l'air... c'est comme si je te dis, Denis, sois poli avec Jeff. Ouais.
Mais c'est dur à c'est dur à comprendre. C'est que souvent, là, je suis en train de jouer avec tous les volumes. Ouais. J'ai pas défait le tien, Jeff.
Non. Okay, c'est bon, c'est de l'autre bord, on est correct.
Excuse-moi. Jeff est rendu sourd.
Non, c'est que, tu sais, ça, quand une chicane, et on vous parle de ce qui s'est passé à BPM Radio, vous l'avez peut-être vu, là, le vidéo est devenu viral. C'est Mathias Brunet, puis Lemay, là, j'oublie son nom. Martin Lemay, c'est-tu ça, Jeff?
Oui, appelez okay. ça.
Il s'ostine, puis à un moment donné, il y en a un qui trouve que l'autre, il a manqué de respect, puis là, t'as pas le droit de dire que je dis des enneries, même. Ouais. Vous parlez de sport, là.
Ben ah, non, puis c'est ça, on en dit à longueur, puis d'années, puis on parle de politique, là.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est le point culminant, là. Tu sais, souvent, le couple qui se sépare, c'est sa vaisselle que là, ça va péter de partout, là.
Mais c'est pas le vrai enjeu.
Ou la balayette. Mmh. Exact. Mmh. Ça, là, c'est des semaines, peut-être des mois d'accumulation de gens qui sont pas heureux à collaborer ensemble. Puis c'est un peu la réflexion qu'on avait hier, parce qu'on se rappelait des moments de malaise comme ça qu'il y a eu live à radio ou ailleurs.
Il y en avait beaucoup à radio, hein?
Oui, puis c'est peut-être un message au patron en même temps de pas forcer les chimies. Souvent, on a l'instinct de savoir, hey, avec cette personne-là, on va être capable de collaborer, d'échanger. Puis des fois, la chimie est juste pas là. C'est comme, je prends toujours le même exemple, mets les meilleurs musiciens du monde dans le meilleur studio du monde et ils ne feront pas la meilleure chanson du monde. Parce que la musique, c'est une question de chimie. La radio en groupe, c'est la même chose. Puis tu le sais rapidement. Est-ce qu'on a une chimie? Est-ce qu'on est capable de travailler ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas de chimie pantoute? Puis ça, ça va pas avec être d'accord ou pas d'accord. Tu prenais Marceau. Moi puis Marceau, on voit pas vraiment les choses de la même façon. Mais pendant une demi-heure, on est capable de se parler sans que la tension monte. Pourquoi?
Avec du vrai fun?
Ben c'est parce que c'est ça. J'apprécie Marceau, puis je le connaissais pas beaucoup. C'est drôle, on a travaillé dans la même boîte pendant des années, puis on se croisait pas ou à peu près pas. Mais depuis qu'il est ici, on se parle un peu plus. Puis tu sais, je me rends compte, il est père de deux jeunes enfants qui ont l'âge de mes gars. Fait qu'on a chacun deux gars, puis...
Les gens changent aussi. Hein?
Oui, puis à partir du moment où tu as des points communs, ben tu parles pas et t'échanges pas de la même façon avec quelqu'un que tu respectes et que tu apprécies. J'ose penser que Marceau m'apprécie puis m'aime bien aussi, puis ça fait en sorte
que...
Ah
oui, je te le dis que oui.
Tu sais, on a toutes des journées qu'on file pas, des journées qu'on a la tête dans le cul, whatever. Il y a des journées où ça éclate, mais quand tu as une chimie avec quelqu'un, tu sens ces choses-là, puis tu es capable de faire attention, je pense.
Le parallèle va être peut-être douteux, mais je pense que tu vas être capable de voir où je veux en venir aussi, mais tout ce qui est avec l'immigration.
Hein?
Oui, je comprends ton questionnement.
Là, je comprends pas.
Tu sais, quelqu'un qui connaît pas la différence culturelle, connaît pas mais qui se met à un moment donné à avoir plein de collègues qui viennent d'ailleurs.
Ah, le racisme!
En partie.
Ben beaucoup.
Mais il y a aussi de la fermeture qui n'est pas du racisme, une genre de fermeture parce que je connais pas. Mais là, je jasais avec cette personne-là, puis c'est vrai. Ah, elle a deux gars aussi. Comme, mettons, toi. Ah, elle est fun. Elle a le même humour que moi. Elle m'apprend des... Finalement, t'es un peu plus ouvert à la fin à ces gens-là qui arrivent d'ailleurs.
Essaye de rester raciste quand tu vas organiser un barbecue chez vous, puis que ton voisin noir va débarquer avec ses enfants, puis que finalement, vous vous rendez compte, les deux, que vous tripez sur le Canadien de Montréal. Puis, hey, Lainé, dès qu'il trouve son spot, ça rentre, hein,
tabarnouche. Oui, hein, trois buts, Lainé.
Là, ça fait une demi-heure que tu parles de hockey, puis tu te rends compte, hey, tabarnouche, on n'est pas si différents.
Mais,
que
par
ça,
exemple, hein, ça se peut que tu le restes si vous parlez des Sabres de Buffalo.
Ouais, ouais, c'est ça. Faut faire attention au choix des sujets.
Si vous n'avez pas compris, ben, vous êtes dans le Pit Stop avec Denis Gravel, puis Jeff Fortin aussi qui est là. C'est un bonheur de travailler avec toi, Denis. Tu as le droit de faire semblant que t'aimes pas, que t'aimes ça travailler avec nous autres aussi en passant cette semaine.
J'adore ça,
ça, ça durera pas longtemps.
C'est bref, c'est intense, j'aime ça.
Je veux te parler de quelque chose, entre autres, parce que ça avait tellement fait réagir, mais tu sais, je sais pas si t'as fait ce genre de truc-là quand t'étais jeune. Jeff, j'ai l'impression que oui, tu t'es pas mal amusé.
C'est clair.
Genre de son d'écris, puis ça a marqué le Québec, là, l'annonce du couple qui a finalement violenté, séquestré des enfants, kidnappé des enfants parce qu'il jouait à son d'écris.
Un petit peu excessif, hein?
Je sais pas.
Moi, ça gosse, là, quand ça sonne chez nous, puis que j'arrive, puis qu'il y a personne, là, puis qu'il y a même pas un colis sur le pied de la porte. Là.
Au moins, ça avait été un colis.
Mais là, il a couru après, dans sa Porsche. Il en a traîné un dans le char, il l'a attaché. C'est rough, là, pour, un coup de flot. Je
te demande à quel point il était heureux, cet homme-là, en partant pour avoir la mèche de 1 pouce sur 1 kilo de dynamite.
Oui, effectivement.
Puis le visage aussi de l'homme. Là, c'est, moi, j'aime pas parler de tout ça à radio. Vous me connaissez, des trucs où je veux pas aller par rapport à l'humain, mais les photos qui sont mises dans les journaux à chaque fois de l'homme en question me glacent le sang. Là. J'ai l'impression qu'il y avait le profil de l'emploi. Mais le couple a été partiellement acquitté. Il va avoir un deuxième procès dans ce procès-là de Son Décris. Si je pensais que ça, c'est un procès qui allait se régler assez rapidement, merci, c'est pas ce qui s'est passé du côté du jury. On n'a pas réussi à s'entendre sur la moitié des chefs d'accusation. Ils ont été en partie acquittés. Ce qui fait en sorte qu'il va falloir retourner en cours avec Claude Bourgie et Mariama Diaby. T'as-tu été surpris?
Quelle perte de temps et d'argent. Moi, ce qui me surprend, c'est que ça n'arrive pas plus souvent. Un jury, c'est 12 personnes.
OK, dans ce sens-là.
Un jury, c'est 12 personnes avec leurs émotions. On est deux personnes, on parle des Sabres, on ne s'entend pas, clairement. Mais non, pour rester sérieux, essaye d'avoir 12 personnes du même bord qui sont capables de dire la même chose. Moi, je suis surpris que ce genre de choses-là n'arrive pas plus souvent. Où ça en prend rien qu'un. Hein? Ça prend rien qu'une personne qui dit « Ouais, mon opinion est plus importante que celle de la majorité, puis je suis tellement convaincu que j'ai raison, que je suis prêt à faire avorter un procès pour faire mon point. » Clairement, il y a des circonstances qui ne sont pas claires sur ce qui s'est passé un coup qui a pogné le kid, qui a vargé, qui a menacé, puis ainsi de suite. Les jurys ne s'entendent pas sur le détail des accusations. Mais quand on y pense, ce qui est surprenant, c'est que ça n'arrive pas plus souvent. Mettre 12 personnes d'accord, surtout que ce n'est pas des avocats de formation, là. C'est des gens qui ont des notions de droit très primaires.
Oui, puis chaque personne a son vécu aussi qui l'amène à penser d'une certaine façon.
Écoute, s'il y a un vieux bougonneux dans le jury là, qui, pendant des années, a fantasmé d'empoigner un petit maudit qui venait sonner chez eux...
Et qui ne l'a pas dit au moment où il faisait les auditions pour le jury, du genre « moi, c'est mon rêve ».
Lui, il était peut-être prêt à les condamner, là, pas à les condamner, mais à les blanchir. Là,
eux autres, ce sont mes idoles.
De l'autre côté, tu as la femme monoparentale de 4 enfants qui dit il peut pas avoir touché un enfant, fait qu'elle les met coupables sur toute la ligne.
Exact.
Puis on fait des préjugés.
Puis oui, effectivement, là, on caricature, mais il y a un fond de vérité là-dedans. Puis au total tout, je veux dire, c'est des flots qui n'ont pas fait de victimes, c'est des flots qui n'ont pas fait de dommages. Il n'y a pas de vandalisme, il n'y a pas de vol. C'est un petit peu gossant, mais on peut passer à travers. Il y a des épreuves de vie plus difficiles, qu'on me dit, là, en général.
Puis j'aimerais ça t'entendre. J'adore où tu nous emmenais par rapport au jury, mais je veux aussi t'entendre sur les... Tu sais, les parents, on a pas d'infos. Moi, bon, j'ai pas d'enfant, mais je pense que... Attention à qui que ce soit le jour où, si j'en ai... décide de violenter mon enfant de même, je vais sûrement risquer d'être un parent qui n'est pas en accord avec les gestes de mes enfants, mais ça se peut, je vire folle.
Mon grand a joué à Son Décris pendant une journée de fin de semaine il y a quelques mois, puis j'ai fini par le savoir.
Bienvenue dans le club parents que leur enfant ont joué à Son Décris.
Tu l'as appris comment?
Ben, c'est que j'ai un enfant qui n'est pas capable de mentir.
Okay.
Quand il essaye, il est facile à déjouer. Il est transparent, fait qu'il a vendu son grand frère.
Okay.
Je me suis assis avec, puis j'ai dit, tu sais, mon grand, je comprends que c'est drôle, là. Puis papa, il en a fait des niaiseries aussi quand il était petit, mais il y a plein de monde sauté sur le crinque, là. Mm. Tu sais, des fois, t'es assis à l'aréna, là, t'entends des parents parler, là.
Mm-hmm.
Dis-toi que ces parents-là, là, c'est peut-être à leur maison que tu vas sonner, puis tu vas peut-être tomber sur une mauvaise journée, puis... quand tu sonnes chez un inconnu, tu fais déjà trop confiance à la bonne foi humaine de penser que la personne va juste sortir, faire « Ah! Je me suis fait avoir! »
Quel fanfaron!
Ouais. Quel fanfaron! Vous ne m'y reprendrez plus, puis là, il retourne en arrière. Ça peut dégénérer parce qu'il y a du monde qui vont pas bien entre les deux oreilles, puis je me suis servi de cette histoire-là.
Oui. Tu leur as raconté, tu leur as montré la photo de l'homme?
J'ai dit, moi, je fais pas... c'est pas pour vous faire des peurs que je vous raconte ça, mais c'est arrivé à une gang de flots qui faisaient pas de mal, sont tombés sur le mauvais monsieur au mauvais moment. Des fois, ça prend juste ça, puis on se ramasse avec des blessés puis des morts.
Il semblait-tu inquiet? Il semblait-tu un peu traumatisé?
Conscientisé. Pas traumatisé, okay. Conscientisé.
Moi, les gars l'ont vécu en faisant des sonnes des cris. Un de leurs amis, l'homme en question, est sorti de sa maison, il est embarqué dans son char, s'est mis à leur courir après.
Hey boy!
Puis il a agrippé le bras d'un de leurs amis. Mais là, il y en a qui sont arrivés à la maison. Ils me disent, hey, papa, oh, je vois ça de Chris. Fait que là, moi, je suis sorti. Mais quand je suis sorti, l'homme s'en allait avec son véhicule. Le jeune était un peu traumatisé. J'ai appelé sa mère parce que là, les kids dormaient tous chez nous. Mais ça m'a permis de dire interdiction de sonne des Chris. Les gars, parce que vous voyez ce qu'ils pourraient vous avoir, on ne sait pas. Il aurait pu prendre l'ami des boys, l'embarquer dans son char. Il aurait pu vous frapper. Parce qu'il était rendu trop loin, puis là, les gars m'ont dit c'était où à peu près, mais j'aurais pu aller faire une intervention, mais en même temps, je me disais, bon, je vais faire une intervention pour parler à qui.
C'était pour les enfants.
Et moi, je reviens toujours au même dénominateur commun, Jeff. Moi, ce qui est important, c'est mes enfants.
C'est exactement.
Le monsieur frustré, agressif, qui gère ses problèmes, il fait pas partie de ma cour, il fait pas partie de mes problèmes.
C'est ça.
Moi, là-dessus, je suis très boys-centré.
Ben, c'est comme ça que je l'ai joué. J'ai joué plus en sensibilisation avec mes enfants, leurs amis, leur montrer. Et puis moi, je suis très transparent avec mes enfants. Là, ils savent que j'en ai fait quand j'étais jeune, puis ils savent que j'ai joué à ça,
ça
puis que j'ai sûrement fait pire. Mais justement, je leur dis, ben là, la société est rendue ailleurs. Il y a des choses que moi, je faisais qui n'étaient pas dangereuses, que là, est rendu dangereux
j'sais
pour
pas,
toi.
Je sais pas. Même moi, quand j'étais jeune, tu sais, le château Richard, là, entre l'Ange Gardien et Château Richer, là,
oui.
Le gros verre là, en décrépitude qui finalement va se faire reconstruire parce que le patrimoine, la dame qui le possédait, elle a déjà fait un reportage, l'avais déjà entendu. Reportage.
Oui, c'est une madame particulière.
Qui était prime.
Oui.
Je l'appellerais madame prime. Nous, on faisait juste passer les jeunes dans le coin, puis c'était intéressant. Tu sais, un château de même, tu tripes, c'est à côté de chez vous, ça a toujours été barricadé, tu veux aller voir dans les fenêtres.
C'est un vrai château hanté.
Oui.
Puis, avec l'hiver, la neige montait jusqu'au grillage.
Vous étiez capable de monter sur le toit?
Oui, non, au grillage autour du château.
OK, de passer par-dessus la gueule.
Fait qu'on passait, écoute, elle nous courait après là, avec un chaudron, ben elle nous disait « Allez vous avertir, allez avertir vos parents! » Pis tout. Mais on n'était pas des fouteux de troubles, on était des curieux. Il y en a qui ont la mèche courte,
Puis on le sait, là, l'agressivité a monté d'un cran un peu partout autour de nous autres. On dénote de plus en plus de manque de savoir-vivre pendant les spectacles, pendant les représentations sportives. Il n'y a plus personne qui veut être arbitre au hockey parce que les parents ne sont pas capables de se retenir. Fait que c'est partout, c'est dans les rues, c'est dans les maisons. Tu vas rentrer dans une maison de primé, puis tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Puis moi, ça me rassure, par exemple. Puis Jeff, j'imagine que tu as cette dynamique-là avec tes enfants aussi. Quand je vois, tu sais, c'est des enfants qui, oui, vont faire des mauvais coups.
Oui.
Puis quand ils prennent conscience de ce qui peut arriver, ils comprennent. Puis moi, ça me fait toujours un petit baume de réaliser que mes gars, ils ont un bon fond.
Clairement.
T'sais, j'ai pas peur à 13 ans qu'ils se ramassent d'un gang de rue de Montréal avec des AK-47 dans les mains parce qu'ils ont un bon fond. Puis quand tu prends le temps de leur expliquer puis d'avoir des discussions avec eux autres, ben ça leur permet de comprendre des choses qu'ils comprenaient pas quand ils étaient dans la rue avec leurs amis puis qu'ils trouvaient ça drôle
c'était
d'aller sonner une porte.
Ouais, puis moi, encore mieux, je les ai même vus se séparer d'amis qui devenaient toxiques. D'avoir la maturité intellectuelle de dire sais-tu cet ami-là? Là?
Non. Ça... On va me tenir loin.
Ouais, puis là, tu sais, moi, c'est simple. Je pose la question après un mois, deux mois que j'ai pas vu l'ami en question. Hey, qu'est-ce qui arrive avec un tel? Hop, j'ai décidé de m'éloigner. Faisait trop de niaiseries.
Ça rassure.
Ça rassure, vraiment.
Avant de passer au prochain sujet, j'ai retrouvé le reportage qui avait été fait par TVA. C'est Dani, la journaliste. Là. Puis vous allez entendre la dame qui nous criait après, qui a terrorisé l'ange gardien près du château Richard.
Quand même, faut dire que bien des gens qui viennent avoir cette maison-là. C'est un endroit qui est quand même touristique ici. Il y a de nombreux cyclistes aussi. Madame, excusez, je suis en direct. Oh, excusez-moi. Alors, on va parler à la propriétaire, je crois. Vous êtes...
Non.
Richard. Mais madame, je ne suis pas sur votre terrain, je suis sur le trottoir.
C'est quoi le reportage?
Je veux juste savoir, c'est qu'il y a des voisins, justement, qui nous disent c'est dommage de voir cette maison dans cet état.
Mais c'est quoi que tu fais là?
Bien, je veux juste savoir, vous êtes la propriétaire, je n'ai rien contre vous, mais expliquez-nous, vous n'êtes pas en mesure de la rénover?
TVA.
Hein? Bon, j'ai rien à dire sur ça, là.
Mais pourquoi vous pouvez pas la rénover, la maison? Ça coûte trop cher?
Non, pas du tout. C'est pas la raison.
Quelle est la raison?
Il y en a pas.
Mais vous aimeriez probablement qu'elle soit dans un bon état si vous êtes la propriétaire?
Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, absolument.
C'est la même chose que toi.
Puis il y a pas des moyens que vous pouvez prendre?
C'est tout fait. Peut-être. On en a, mais toutes les fois, les municipalités, des fois, c'est pas toujours les plus aidants.
Ça, c'était parlant, tu sais, pour les gens qui habitaient là-bas.
C'est quand, ça?
Ça, c'est en... C'est-tu la date? Il y a 8 ans, ça a été publié, mais tu sais, des fois, ça a été fait.
C'est peut-être plus vieux que ça. Tabarnouche, d'habitude, j'ai un bon filet pour pogner toutes ces vidéos-là, mais celui-là, je l'avais jamais vu.
Bien, ça, là, c'est l'histoire de l'Ange gardien. D'où je viens, OK? Ouais. C'est le No Man's Land que personne ne sait qui existe entre Bois-Châtel et Château-Richer, qu'à chaque fois que tu dis que tu habites là, ils pensent que c'est à Montréal parce que tu as Ange gardien. Mm. Et que quand tu étais jeune, c'était vraiment triste. Toutes les choses que tu peux te faire livrer, c'est les revues cool puis autres, pognais pas ton code postal. Ouais. Fait que voici l'Ange gardien et ainsi les méandres de ce qui peut se passer en vidéo. Il y a Radio-Canada qui ont fait une série d'entrevues qu'ils vont présenter là, pendant le temps des fêtes avec plein de personnalités de l'année qu'eux ont pris bon, une liste qu'ils ont fait ensemble puis ont fait des entrevues avec ce qu'ils considèrent comme étant des personnalités de l'année pour Québec. Je trouve ça intéressant puis j'avais le goût de te poser la question, Denis. Toi, si tu avais un top 3 de okay. personnalités de l'année à faire...
De Québec.
De Québec. Si tu as le goût de t'épivarder, vas-y.
Je suis allé avec Québec.
Okay.
Québec, la ville.
Moi aussi, je suis allé avec la ville de Québec.
Puis j'ai trouvé l'exercice particulièrement difficile parce que ça fait une couple de fois qu'on en parle cette semaine dans le retour. C'est une année qui est tough. Au niveau politique, il n'y a pas grand monde non. qui ont bien paru. Puis moi, je suis pas comme le Time Magazine, là. J'essaie de trouver des personnalités de l'année qui ont amené du positif.
Oh,
là.
T'es allé dans la branche. On aime ces gens. Ils ont été bénéfiques pour Québec.
Qui ont eu un impact... positif sur l'actualité. Okay. Par exemple, je trouve que le maire Marchand n'a pas eu une bonne année.
Non.
Même si on a parlé de lui à tous les jours, pour moi, ce n'est pas une personnalité de l'année 2024.
Même chose pour moi.
Couverture de magazine.
C'est drôle parce que j'ai hâte de voir tes noms parce que moi, c'est la même chose. J'ai pris 3 noms en me disant, eux, ils ont fait rayonner Québec.
OK.
Qui commence?
Vas-y, Denis, avec ton troisième. Okay? Okay, troisième personnalité.
Mon troisième, c'est... Il y a énormément de politiciens qui paraissent mal. Puis dans un monde où beaucoup de politiciens paraissent mal, se crée un vide. Et dans le vide, ce nom revient sans cesse. Mon troisième est un fantôme, mais c'est un fantôme qui a hanté 2024. Ma personnalité de l'année numéro 3, c'est Sam Ahmad. C'est Sam Ahmad. Il a rien fait,
ouais.
Il a rien dit. Tout le monde a parlé de lui.
C'est
il mène, ou presque, dans les sondages, à chaque sortie... Il a été talonné. Quand il est allé manger avec le ministre responsable de la Capitale-Nationale, ben oui. Tout le monde en ville a réagi pendant une semaine. Dans un monde où les politiciens ont eu une année tough, lui s'est imposé dans presque toutes les conversations. 2025, ça va être plus dur. Il va falloir qu'il se mouille, il va falloir qu'il se commette, il va falloir qu'il plonge. Mais en 2024, c'est un nom qu'on a énormément entendu. Alors que fondamentalement, il est resté dans son garage à réfléchir.
Très bien dit. Pour toi, Jeff, as-tu un fantôme en troisième position?
Non, j'ai pas un fantôme en troisième position, mais j'ai un homme qui a annoncé son départ. C'est Michel Laplante, des Capitales de Québec.
C'est bon, très bon.
Parce que je trouve tellement que... puis tu sais, oui, pour l'année 2024, avec un troisième championnat de suite pour les Capitales, avec la moitié des matchs qui sont sales comme, avec le fait que... qui a développé une offre familiale exceptionnelle. Mais je pense que pour toutes les années aussi, là, qui a été avec les Capitales, puis pour tout le développement du baseball à Québec, le projet du Dôme, il y a quoi? On parlait de sport tantôt, il y a 150, 200, 300 jeunes par jour qui jouent au baseball là.
La stagnation des prix, ça a tellement aidé les petites familles à aller au baseball puis à ramener du monde dans les estrades avec les hot dogs, la poutine, la bière pas chère.
Parce que ce qu'il a réalisé, premièrement, en sauvant le stade municipal,
clairement.
Avec un projet au départ qui intéressait pas grand monde, puis c'est devenu un go-to l'été. J'aime ces histoires-là qui partent de rien, puis en même temps, il a quasiment forcé le reste de la région de Québec à revoir l'offre, que ce soit une offre sportive ou whatever, parce que c'est une formule petit prix familial qu'on offre au capital et qui fonctionne très bien. Un projet qui a porté à bout de bras, puis je comprends que derrière Michel, il y a plein de monde, mais c'est lui l'étincelle puis la bougie de départ. Puis y avoir pensé, puis je m'en veux, là, je l'aurais mis numéro 2 ou numéro 1 de mes personnalités.
Fait que t'es d'accord à 100%.
Ah, absolument.
Puis, quand on vous demande à vous, les gars, parce que bon, vous êtes un peu plus âgés, vous avez connu les expos à Montréal, il y en a beaucoup qui faisaient le chemin Québec-Montréal pour y aller, puis ça fait partie des beaux souvenirs d'enfance, bien, ça vient aussi avec la concession. Les Cracker Jack, les ci, les ça, la petite bière.
Fait
que
ben oui.
Ça, je pense que c'est à ne pas sous-estimer ces petites choses-là que lui a vues comme étant grandes aussi au travers de ça. Moi, j'ai envie d'y aller avec... Je savais que vous allez prendre des gens connus. Je vais y aller, moi, mon top 3. Le garage Multitech à Québec. Je m'exprime rapidement.
Le quoi?
Le garage Multitech?
Oui.
Ah oui?
Un garage où j'ai été cette année, où les deux gars à réception, des hommes dans vos âges, super jovial, vraiment le fun et drôle, qui, au moment où moi j'attendais, il y a une femme avec un voile qui est entrée, une immigrante, clairement, qui venait d'arriver, ça faisait pas longtemps. Et la politesse qu'ils ont eue envers elle, pour un expliquer, dans un langage qui était doux, qui était tellement inclusif, qui était tellement gentil, et la salutation qu'ils ont eue à la fin pour cette dame-là, ça a été... « Hey, madame, on vous souhaite une super belle année. On espère que vous allez aimer votre intégration, vous allez tomber sur des bonnes personnes. Bienvenue au Québec. » Moi, je lève mon chapeau à ces gens-là qui, dans toute l'adversité et l'immigration, ont eu ce genre de comportement.
Bravo.
Cool. Point, ben, en fait, position 2 pour toi, Denis.
Position 2 sont dans l'actualité aujourd'hui. En fait, sont dans l'actualité souvent. Je comprends que ce ne sont pas des gens parfaits, mais je pense qu'ils représentent le nouveau « minding » puis que leur façon de voir les choses, ça nous permet de nous montrer la direction dans laquelle il faut aller dans les prochaines années si on veut que les villes s'améliorent un peu. J'ai pris les frères Trudel. Les frères Trudel qui ont vraiment amélioré leur image publique cette année, donné beaucoup d'entrevues. Ce qu'ils ont fait avec la bouchée généreuse, une année où la manchette numéro un a été le manque de denrées alimentaires, les problèmes de sans-abri, l'itinérance et ainsi de suite, les besoins, les demandes qui ont explosé. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire régler un dossier que l'Hôtel de Ville de Québec était incapable de régler. C'est bravo sur toute la ligne. Ils sont dans l'actualité aujourd'hui avec leur projet de l'îlot Dorchester parce que ça fait deux fois qu'ils sortent d'un journal puis qu'ils disent qu'ils sont bien tannés, puis je sais qu'ils vous l'ont dit.
Ils nous l'ont dit il y a deux semaines exactement. Oui. On a même des extraits de
mais
ça.
Oui.
Là, c'est ça.
Là, ils sont un peu tannés parce qu'ils disent « Nous autres, on va en consultation puis on modifie nos projets par rapport à ce que les gens demandent. » Puis à partir de ce moment-là, ben c'est dur d'avoir le OK de la ville de Québec. Puis là, nous autres, on est un peu rendus à bout de ressources. On a hâte de commencer à creuser. Mais si ça ne vous intéresse pas, puis que tout ce qu'on fait, c'est jouer aux échecs avec une ville de façon interminable, ben ça va rester un parking. Puis nous autres, on va aller développer ailleurs. Avant, des développeurs, c'était des méchants dans des films des années 80. Tu sais, les propriétaires de centres d'achat.
Les vieux riches.
Oui.
Ils voulaient juste faire de l'argent, que c'était de la population, petit développement de la ville.
C'est un nouveau visage. C'est une nouvelle façon de faire. J'ai tellement entendu ça souvent de maires et de mairesses différents dans la région de Québec, de dire les développeurs consultent pas puis ils se foutent du monde. Les Trudel. En apparence, c'est pas ça qu'ils font.
Non.
Et je pense que dans une ville où on veut une meilleure qualité de vie, c'est the way to go. Tu parles avec les gens qui ont besoin d'argent, tu parles avec les gens qui ont besoin de bouffe, tu parles avec les gens qui sont là depuis longtemps, puis tu leur demandes qu'est-ce qui manque, de quoi vous avez besoin. C'est comme ça que tu rajoutes dans un projet immobilier une épicerie au rez-de-chaussée, une place à café, par exemple. C'est comme ça que tu développes. Il faut peut-être changer notre mentalité au niveau de la ville versus les gens qui veulent développer des secteurs morts qui nous font penser à Kaboul plus qu'à la capitale nationale.
Puis ben, des secteurs aussi où il faut du logement abordable. Puis tu l'as vu, petite parenthèse sur ce que Denis fait, là. Sarah-Jeanne Labrosse, que vous connaissez comme comédienne avec son chum Marc-André Grondin, là.
Oui.
Ils ont une série sur Tout.tv, Passion Poussière, la dernière saison, c'est ça. Ils ont voulu faire des logements abordables et se sont fait dire « Non, faut que tu restes dans les prix. » Si t'es pas dans les prix, globaux, là, dans moyenne à Montréal, ben, tu ne peux pas mettre un loyer à ton prix. Tu ne peux même pas le faire pour ta propre famille. Mm. Là, à un moment donné, c'est quoi? Là? Toi, tu essaies de changer les choses, d'offrir de la construction pour encore le logement.
Alors qu'il y a un besoin.
Alors qu'il y a un besoin, puis la ville te met des bâtons dans les roues. Mm-hmm. C'est un peu la même chose à Québec. On se rend compte en faisant pénurie de logement. Là.
Je vais faire un ricochet à Pascal parce que moi, c'était mes numéros 1, les frères Trudel.
Ah oh!
Ouais, puis j'ajoute juste un élément à ce que tu as dit. Quand tu es un homme d'affaires et que tu t'impliques communautairement comme ils ont fait avec la bouchée généreuse, faut que tu te rendes public. Ça incite les autres à le faire.
Ouais, t'as
ça,
t'as
je
raison.
Les remercie de l'avoir fait parce que ça ouvre les yeux à d'autres qui font « Ouais, c'est
c'était
vrai,
pas
je vais
chauvin,
le faire, moi aussi. »
C'était pas un manque
pas
d'humilité. Là.
Pas du
tu
tout.
Tu le
du
vois
tout,
bien plus tôt comme
ah,
étant,
oui,
c'est essentiel.
C'est une roue qui tourne, ça. Faut que tu démontres que tu le fais, puis ça incite d'autres à le faire.
Tu peux plus garder ça dans l'angle mort en 2024, là, puis faire semblant que ça existe.
Parce que ça délie des langues aussi à la ville.
Oui.
Oui. Ça a beaucoup d'alliés de langue aussi, ben des citoyens qui veulent la même chose, d'autres entrepreneurs. Puis eux, ils ont eu la main plus facile parce qu'ils connaissaient les rouages. Puis ils ont déjà travaillé à la ville en étant policier, mais quand même. Puis ton numéro 2, mettons qu'on était dans le 2, puis là, ça, c'était ta position 1.
Écoute, mon numéro 2, c'est fort simple. Il y a un gros problème à Québec à l'heure actuelle, c'est l'itinérance. Puis moi, mon numéro 2, c'est Éric Boulay de la maison L'Aube-Rivière. Éric, c'est exceptionnel. T'sais, il va être là les 23-24 dans son opération Dindon, directement avec les personnes itinérantes. Il connaît tout par leur nom. Il leur jase tout. Ils forment une équipe exceptionnelle. Ils ont développé encore plus d'unités long terme. Là, ils ont développé un programme, justement, PRIS, qui va permettre à des personnes itinérantes sur du long terme, sur un an, d'avoir retour en logement, accompagnement avec des professionnels. C'est un gars qui a le cœur sur la main. C'est un gars qui n'a jamais peur d'aller devant le Kodak, justement, puis de dire « Hey, ça marche pas, ça, faut qu'on le fasse comme ça. » Il appuie tous les autres organismes qui sont avec lui aussi. La Maison L'Aube-Rivière, c'est sûrement le plus gros organisme en itinérance à Québec, mais il va donner un coup de main à tous les plus petits organismes parce qu'il croit justement à cette collectivité-là.
Puis il l'a pas eu facile avec le déménagement, puis il a quand même gardé le cap.
Fait que c'était lui mon deuxième.
On s'est pas consulté, mais on est allé dans la même place. Mon numéro un, toutes les explications fit, mais j'avais pris Marie-Pierre et Pierre Gravel.
Ben oui, exactement.
De la bouchée généreuse. Puis je trouve ça important qu'alors que c'est la problématique numéro un à Québec, que cette problématique-là ait maintenant des visages et des porte-paroles.
Oui.
Qui se sont battus, hein, disons-le. Là, sous la couverture, c'était des appels à la ville puis la ville qui ne rappelait pas. Là.
Je vais juste donner un exemple avec Marie-Pierre Gravel. Elle était en entrevue avec nous lundi matin.
Elle est tout le temps pleine d'émotions.
Puis là, elle est tout le temps pleine. Puis là, quand elle a vécu l'émotion, Tony, représentant ici, nous écoutait à la radio. Il est allé tout de suite à l'épicerie chercher une dinde puis il est allé apporter la bouchée généreuse.
Tiens, toi. Oui.
Fait que, tu sais, quand tu dis ça prend des porte-paroles comme ça, là, elle est parfaite.
Tu sais, à un moment donné, c'était Gilles Kegle qui était l'homme de la rue.
Pour les soins à domicile. Puis...
De voir qu'il y a une relève alors qu'il y a des besoins qui grandissent sans cesse. Bravo à ces gens-là. Bravo au don de soi de ces gens-là qui est exceptionnel. Puis gênez-vous pas pour parler avec émotion dès que vous avez un micro parce que c'est comme ça qu'on touche les gens puis c'est comme ça qu'on rejoint un plus grand nombre de personnes. Fait que nos noms sont interchangeables.
Ouais, c'est ça.
Mais je pense que le message de base est
c'est le même.
Puis on rappelle qu'il y a un conteneur ici au 815 boulevard Le Bourgneuf pour ramasser des denrées non périssables. Si vous voulez venir en pitcher là-dedans, vous venez. Faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi, si vous avez moins de moyens, faire le ménage de vos armoires. Les affaires qui ne sont pas périmées, ça peut servir, ça va nourrir des gens. Sinon, ben, des dons directement à la bouchée généreuse. À L'Aube-Rivière en ce moment, qui a l'opération Dindon. Si vous textez Dindon au 41010, 25 $ s'en va à L'Aube-Rivière. Ils achètent des dindes, ils font des pâtés, ils font des repas pour les bénéficiaires. Ça change littéralement le quotidien de ces gens-là. Mon deux, moi, c'était un peu ça, c'était les bénévoles. Parce que plus tu fais du bénévolat, puis Jeff, tu peux sûrement... Tu sais, moi, j'essaie d'aller hors des gens connus, là. Mais quand tu fais du bénévolat, tu te rends compte que la majorité des bénévoles, c'est du monde qui en aurait besoin peut-être aussi et ou qui en ont eu besoin. Fait qu'ils n'ont pas grand-chose à donner, sinon la chose la plus importante, du temps. Puis ils décident de l'investir là, malgré le fait qu'ils pourraient aller travailler, ramasser des sous pour eux-mêmes et tout. Je trouve qu'il y a quelque chose de touchant dans ceux qui s'impliquent aussi dans des organismes. Là.
Vraiment, puis j'ai lu une étude. Les gens à faible revenu, donc 50 000 $ et moins, donnent 2,1 % de leur salaire à la communauté en don.
Wow. Peut-être parce que tu l'as vécu.
C'est ça,
que
exactement.
Tu es plus en contact. Puis mon point 1, je pense que c'était l'union en général. Parce que par des petites affaires, genre Yannick Marceau qui décide de faire un gala de lutte, que Denis embarque, que nous autres, on décide d'embarquer, que finalement, ça prend de l'ampleur. Le montant à amasser qu'on a donné à la bouchée généreuse qui finalement est triplé parce qu'ils ont des ententes avec des endroits où on vend de la nourriture ou autre comme Costco, des épiceries de ce monde, a fait en sorte qu'on s'est rendu compte que hey, des fois, une petite bulle stupide fait en sorte que si on s'unit tout le monde ensemble puis qu'on met un petit peu d'effort, fait en sorte que ça devient un gros effort, fait en sorte que ça devient des gros résultats.
Je vais avoir de l'air d'un politicien qui part une mauvaise campagne électorale, mais je pense que l'ère de la confrontation à Québec s'est terminée. Là, on rentre dans l'ère de la conversation puis de la collaboration. Parce que sans ça, on ne s'en sortira pas. Il n'y a pas un projet qui va avancer. Il n'y a rien de collectif qui va se faire comme faux. Puis je pense qu'il faut justement retenir des messages de ceux qui réussissent à collaborer puis à converser. On le voit, il y a des canaux de coupé entre le gouvernement de la CAQ et ici, du côté de la Ville de Québec. Il y a des canaux de coupé avec le Canada aussi. Il n'y a même plus de fin de recevoir ou de non recevoir là, pour l'argent qu'on demande pour le tramway, entre autres. Il faut recommencer à se parler parce que sans ça, il n'y a rien qui avance puis il n'y a rien qui bouge. Puis c'est pas parce qu'on s'entend pas sur les sables de Buffalo qu'on s'entendra pas nécessairement sur autre chose.
Merci, Denis Gravel. C'était le petit top du mercredi. On le retrouve dès demain midi dans Marceau le midi, en vacances, parce que Marceau se fait de Raquen, toujours avec Jeff Fortin et moi-même, Pascal Cévé. Boulevard.